pas en faire toute une histoire.
On va pas en faire toute une histoire. On va pas en,
faire toute une histoire.
Oh, c'est sûr, on va pas en faire toute une histoire.
Une émission proposée par l'Arbre à Conte. J'espère que vous aurez passé au mieux ce moment entre parenthèses. Cette nouvelle émission de « On ne va pas en faire toute une histoire » vous cueille en début de notre première semaine de déconfinement. Un petit début, en attendant l'autorisation de fouler nos plages désertes. Pour ce mois de mai, la première histoire racontée par Claire évoque un vizir dont le confinement dure 7 années et qui n'a qu'un rêve, celui de goûter un loukoum à la pistache.
Par-delà les mers, par-delà les déserts, il était un royaume gouverné par 2 têtes. Le roi, bien sûr, mais aussi le grand vizir, qui était de très bons conseils. Le royaume était bien gouverné et tout le monde y vivait heureux. Presque tout le monde. Car certains ministres étaient jaloux de l'influence du grand vizir. Et de façon pernicieuse, un peu, il glissait des petites phrases, des petits soupçons dans l'oreille du roi. Le roi ne les écoutait pas. Le grand vizir n'était pas au courant. Et la vie se déroulait. Un jour d'entre les jours, le grand vizir était allé au bain public. Et tant qu'il était dans le bain, sa bague, emportée par le savon, a glissé et tombé de son doigt dans l'eau. Il est resté sidéré. Elle n'avait pas coulé, au fond. Alors qu'elle était en or, garnie de pierres précieuses, et qu'elle aurait dû tomber directement au fond de l'eau. Non, elle est restée à flotter en surface. Le grand vizir était sidéré. Et puis assez rapidement, il s'est ressaisi. Il a remis sa bague au doigt, il s'est rhabillé, il a quitté rapidement le bain public et s'est précipité chez lui. Il est allé voir sa femme et lui a dit « Tu vas quitter immédiatement notre palais et te rendre dans le royaume voisin chez mon cousin. Tu emmèneras tous nos gens et tu emporteras tous nos biens. » La femme n'a pas discuté. Ni l'un ni l'autre ne savaient pourquoi, mais il fallait faire vite. Et la femme est partie, accompagnée des gens emportant tous les biens. Et lui est resté en la seule compagnie d'un vieux serviteur, dans un palais dans lequel ne restait plus qu'un vieux tapis et un grand feu délabré. Et les jours ont continué, semblables aux jours d'avant. Tous les jours, il allait, tous les matins, il allait au palais du roi, et le conseiller toute la journée. Et le soir, il rentrait dans son palais vide. Et un matin, le matin du 7e jour, fracas de coups sur la porte, des gardes entrent, viennent saisir le grand vizir et l'emmènent vers le palais. Ils ne l'emmènent ni devant le roi, ni devant les ministres, ni devant les courtisans, des valets ou des serviteurs. Ils l'emmènent directement dans les cachots. Ils le descendent jusqu'au plus profond des cachots, dont il ignorait même jusqu'à l'existence. Et ils l'enferment dans un trou sordide où il y a juste un petit filet de lumière. Et il reste là, seul, dans l'humidité, le noir. Tous les jours, un gardien bougon lui porte une cruche d'eau et une assiette de soupe, une espèce de ratat des prisons, sans dire un mot. Au début, le grand vizir proteste, demande à voir le roi ou les ministres ou un conseiller ou un valet. Mais non, Le garde repart toujours sans dire un mot. Les jours passent, les semaines passent, les mois passent. Et au fur et à mesure que le temps passe, ce n'est pas de l'humidité, ni de la noirceur, ni de la solitude que souffre le plus le grand vizir. C'est d'une envie qui lui est venue petit à petit au fil des jours. Il a envie de manger un loukoum à la pistache. Il en salive, il en rêve. Il le voit, le loukoum, c'est une petite confiserie bien cubique, une forme parfaite qui mélange douceur et fermeté, un goût très tendre et en même temps légèrement piquant avec le croquant de la pistache. Et puis par-dessus, le sucre glace, saupoudré délicatement. Il en rêve, tant et si bien qu'il demande au garde de lui porter un loukoum à la pistache. Mais le garde pose l'assiette d'orata, pose la cruche et repart sans dire un mot. Le lendemain, il revient avec la cruche et l'assiette et repart sans dire un mot. Mais pour le grand vizir, c'est devenu une obsession. La couleur des murs et couleur de loukoum à la pistache. Le salpêtre qui tombe des mêmes murs est de la couleur du sucre glace. Et tous les jours, chaque fois qu'il voit le garde, il lui demande de lui porter un pistache. Et le garde repart en silence. Et un jour, d'entre les jours, un matin, le garde dépose devant lui la cruche d'eau, l'assiette de rata, et un petit paquet blanc cubique en papier. Ah ! Il n'ose pas y croire. À peine le garde est-il reparti qu'il ouvre le petit paquet. Et dedans, il y a un loukoum à la pistache. Il le porte à ses narines, il le porte à sa bouche, il veut croquer dedans. Et tout d'un coup, il réalise que s'il mange le loukoum, après il aura encore faim, il faudra qu'il mange l'assiette de rata. Et ça ne sera pas possible. Il finira sur quelque chose de mauvais. Il faut qu'il fasse le contraire. Il faut qu'il mange d'abord l'assiette de rata des prisons. Et puis après, il pourra finir sur le loukoum. Ça va être un vrai bonheur. Alors il déplie soigneusement le papier blanc, il l'étale dans le petit rayon de lumière, il pose au milieu le loukoum, il le regarde bien, il prend son assiette de rata et cuillère après cuillère, il avale son rata. Il se croyait seul au fond du tréfonds. Un rat qui vivait près de lui, au fond de ce coin chaud, se précipite attiré par l'odeur fabuleuse et plonge ses deux pattes avant dans le loukoum. Il se colle, il s'englue, il est terrifié, il se met à couiner horriblement et pour se défendre, il se plante les deux pattes arrière dans le même loukoum. Il est tellement terrorisé qu'il pisse sur le loukoum et que les poils de son ventre s'agglutinent. C'est indicible. Et le grand vizir reste complètement sidéré. C'est trop. C'est pas possible. Et puis tout d'un coup, il se ressaisit. Il se redresse. Il se précipite vers la porte et il cogne à la porte du cachot. Garde, garde! Le garde arrive en courant, intrigué. Et il lui dit, s'il te plaît, tu vas aller chez moi. Je saurai te remercier. Tu vas aller chez moi demander à mon serviteur de faire revenir ma femme, accompagnée de nos gens et avec tous nos biens, et de se réinstaller dans le palais et de m'y attendre. La porte se referme, le garde n'a rien dit. Et les jours se passent, semblables aux jours. Chaque fois une cruche d'eau et une assiette de rata. Et puis, au matin du septième jour, fracas de clés dans la serrure. La porte s'ouvre et ce sont des ministres eux-mêmes qui viennent chercher le grand vizir. Qu'ils font prendre un bain, qu'ils remontent dans les étages, qu'ils l'habillent joliment et qu'ils l'amènent devant le roi, qui ne sait comment s'excuser. Il dit, j'ai écouté des mauvaises gens qui disaient des médisances sur toi, mais je ne comprends pas comment j'ai pu faire ça, et aujourd'hui je voudrais te rendre ta place avec même plus d'honneur. Voilà de l'or pour te dédommager, mais je ne sais pas si tu pourras me pardonner de t'avoir ainsi abandonné et d'avoir ainsi cru. Le grand vizir est rentré chez lui. Le palais était ouvert, sa femme était là, les gens mettaient tout en place, tout le mobilier, et tous ses amis étaient là, venus pour une fête extraordinaire. La journée s'est passée très bellement, et le soir, l'un de ses amis lui a dit « Il faut quand même que tu nous expliques. Nous ne comprenons pas comment tu as deviné que 7 jours avant, que tu as deviné que tu allais être emprisonné. » Et nous ne comprenons pas que 7 jours avant, tu aies deviné que tu allais être libéré. Le grand vizir s'est mis à rire. Il a dit, j'ai rien deviné du tout. Simplement, quand j'ai perdu ma bague et qu'elle s'est mise à flotter, alors que c'était une lourde bague en or et pierres précieuses, je me suis dit que j'avais trop de chance, que j'étais arrivé au sommet de la chance et que je ne pouvais que redescendre. Donc il fallait que je me prépare au pire. Et c'est ce que j'ai fait. Et puis, 7 ans plus tard, quand j'ai vu ce que ce rat a fait de ce loukoum extraordinaire, je me suis dit que là, j'étais arrivée au fond de la malchance. Et que tout ce que je pouvais faire, c'était de remonter et de me retrouver ce soir parmi vous tous.
Ce qui nous a manqué, c'était peut-être de retrouver des amis et de partager un repas avec eux. Dans l'histoire que nous raconte Véronique, Alain n'a pas grand-chose à partager, juste un grain de riz. Et pourtant, ce grain de riz donnera l'occasion d'un festin entre amis.
Un homme qui était très pauvre. Alain. On était le soir du 31 décembre, et ben lui aussi il avait envie de faire un bon repas pour les fêtes. Alors il s'est mis à chercher chez lui ce qu'il pouvait bien avoir. Mais il a regardé et il avait pas de spaghettis, pas de couscous, pas de haricots, pas de lentilles, pas de sucre, pas de farine, pas de chocolat. Rien, rien et rien. Alors complètement dépité, il s'est assis sur sa petite chaise à côté de sa table. Et puis, il a tiré le tiroir de sa table, et là, il l'a vu. Dans un interstice, un petit grain de riz. Ben, ça y est, c'est ça qu'il allait manger ce soir. Sauf qu'il avait plus de quoi le faire cuire, ça fait déjà bien longtemps qu'il avait vendu sa vaisselle. Alors, il est allé voir le voisin pour lui demander s'il pouvait lui prêter une casserole. Et dit voisin, ce soir je mange du riz. Est-ce que tu pourrais me prêter une casserole ? Alors le voisin lui demande s'il veut une petite ou une grande casserole. Et Alain, il réfléchit et dit... Eh ben, j'ai toujours entendu dire que pour faire cuire du riz, pour que vraiment il soit bon et savoureux, il fallait beaucoup d'eau, alors je veux bien une grande casserole. Et le voisin lui prête une casserole. Mais lui dit, écoute, moi ce soir j'ai pas envie de manger tout seul, je viens manger le riz avec toi. Pas de problème, dit Alain, quand il y en a pour un, il y en a pour deux. Et voilà Alain avec sa casserole. Sauf qu'il n'avait pas d'eau non plus, parce qu'à cette époque-là, l'eau n'était pas dans les maisons. Il fallait aller chercher jusqu'au puits. Et il faisait déjà froid, il faisait déjà à moitié nuit, et en fait, il avait la flemme, quoi. Alors il s'est bien dit que la voisine un peu plus bas, elle lui donnerait bien un petit peu d'eau. Et dit voisine, ce soir on est deux à manger du riz à la maison. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu d'eau pour le faire cuire ? Bon, pas de problème, dit la voisine. Et pour la peine que je me suis donnée à aller la chercher l'eau, eh bien je vais manger avec vous. Mais d'accord, quand il y en a pour deux, il y en a pour trois. Alain se retrouve chez lui avec sa casserole, remplie d'eau, mais sauf qu'il faut bien faire chauffer tout ça, et lui, il avait plus d'allumettes, plus de papier, plus de bois. Ben, du coup, il est allé voir Pierre, Paul et Jacques pour à chaque fois leur demander ce dont il avait besoin, et à chaque fois, ben, ils ont dit oui, mais ils ont dit d'accord, mais on vient manger avec toi. Ben, Alain, il a dit, bon, quand il y en a pour trois, il y en a pour quatre. Quand il y en a pour quatre, il y en a pour cinq. Et quand il y en a pour 5, il y en a pour 6. Et Alain s'est retrouvé chez lui avec tout ce qu'il fallait pour faire cuire son grain de riz. Alors là, il s'est dit, un grain de riz pour 6, c'est pas beaucoup. Bon, c'est mieux que rien du tout. Comment on va faire ? Oh ! Ben, on va le sucer chacun notre tour. Comme ça, ben oui, c'est ça, c'est la solution. Et puis il réfléchit encore un peu, et puis il se dit, oh mais quand même, il y a une fermière au bout du village, elle élève des poules, je vais aller la voir. Alors Alain va voir la fermière et il dit, écoute, ce soir on est 6 à manger du riz chez moi. Si tu veux, tu peux te joindre à nous. Alors nous on est pauvres, on a vraiment que du riz. Toi si tu veux, tu peux prendre une petite poule, il n'y a pas de problème, mais au moins comme ça tu seras pas toute seule pour les fêtes. Elle dit, ben oui, d'accord. Ah, ça c'est l'occasion, plutôt que de manger tout seul. Et puis, je viens pas les mains vides, hein. La poule, là, regarde, cette poule bien grasse, tu la prends, ce sera pour ce soir. Et ben là, on se retrouve chez lui avec sa poule et il se dit, oh, c'est bête, elle avait des oies, mais pourquoi je veux pas parler des oies, c'était bien plus gros. Bon, enfin bon. Une poule pour 7, c'est quand même mieux qu'un grain de riz pour 6. Mais ça va pas faire énorme. Mais il y a une vieille, de l'autre côté du village. Elle, c'est des dindes qu'elle a. Ah ben, je vais aller la voir. Et dis ce soir, on est 7 à manger une poule au riz. Est-ce que tu te joindrais bien avec nous ? Ce serait plus sympa que d'être seule. La vieille dit, ben oui, avec plaisir. D'accord. Ah oui, ça me fait vraiment plaisir, mais moi, les dindes, j'en vends toute l'année. Jamais j'en mange, c'est bien trop con pour moi. Alors, celle-ci, eh bien, prends-la, ce sera pour ce soir. Eh bien, Alain retourne avec sa dinde. Et il se trouve que ça a si bien marché qu'il se dit, bah, moi, je vais aller voir le boulanger, l'épicier, le marchand de légumes, c'est bien que... Eh ben le soir, ils se sont retrouvés à peu près à 11 à table, à festoyer avec des gâteaux, des légumes, des rôtis et tout ce qu'il faut. Et ça parlait et ça riait et la soirée était vraiment sympathique. Et tout d'un coup, il y en a un qui dit, mais dis-toi Alain, tu ne nous as pas invités pour manger du riz ? Oh ! J'ai complètement oublié de le faire cuire. Alors Alain va chercher son grain de riz, il le montre à tout le monde. Et tous, ils ont bien ri.
La dernière histoire, racontée par Elisabeth, nous raconte que parfois dans la vie, on peut avoir de très très bonnes raisons de râler.
Dans son village,
Arthur est connu pour son mauvais caractère. Il n'est jamais content de rien. Rien ne se passe comme il le souhaite. Il pleut trop ou pas assez. Ses vaches donnent trop de lait ou pas assez. Et ce matin, c'est peut-être pire encore que les autres jours. On l'entend pester après son pauvre cheval de trait. Il est en train de labourer son champ, son cheval va trop vite, ne va pas assez vite, ne tire pas assez fort sur la charrue, c'est pire que tout. Et à un moment donné, voilà que le soc de sa charrue reste bloqué. C'est pas Dieu possible, mais il laisse sa charrue, va voir au pied du soc, effectivement, la lame de métal est coincée contre quelque chose. Il étale son cheval, déplace sa charrue et du bout du pied commence à gratter autour de cet objet qui l'empêche de travailler. C'est un cercle. Il gratte un petit peu plus, finit par déterrer à la pioche un tonneau. Qu'est-ce qui m'a mis un tonneau dans ce champ ? Il regarde le tonneau. Il n'est pas si mal que ça, je pourrais peut-être en faire quelque chose. Et tout fier, il rentre à la maison avec son tonneau. Quand sa femme le voit arriver, avec ce tonneau plein de terre, « Mais qu'est-ce que tu m'amènes encore à la maison ? Tu ne crois pas qu'on a assez de mérins comme ça, entassés dans les greniers ? Va me jeter ça tout de suite !» Oh, mais fais voir au fait ton tonneau. Mais il est pas mal du tout. À mon avis, un bon coup de brosse et il sera neuf. Aussitôt dit, aussitôt fait, Jeanne retrousse ses manches, remplit un baquet d'eau, de la lessive, une brosse en chien-dent et frotte, 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 frotte. Au bout de 20 minutes, la mèche échappée du chignon, les manches retroussées, la sueur au front, les poings sur les hanches, elle regarde son œuvre. Elle a devant elle un magnifique tonneau. Les douelles en bois bien neuves, le cercle de fer, pas une pointe de rouille, un tonneau sorti de chez le fabricant. Arthur, viens voir comme il est beau mon tonneau. Comment ça, ton tonneau ? Dis donc, c'est moi qui l'ai trouvé. Tu l'as peut-être trouvé, mais si je ne l'avais pas nettoyé, il aurait fini dans le grenier. Mais pas du tout, c'est mon tonneau, je l'ai trouvé, c'est pas parce que tu l'as un peu nettoyé. Et puis d'ailleurs, regarde, il reste une tache. Comment ça, il reste une tache ? Passe-moi la broche, je vais finir de nettoyer. De toute façon, tu ne finis jamais ton travail. Comment ça, je finis jamais mon travail ? Mais si, c'est moi, donne-moi la brosse. Et les voilà, tous les deux qui se disputent, voulant s'arracher la brosse finit par tomber dans le tonneau. Ce que t'es maladroite, ma pauvre Jeanne. Arthur, prends le tonneau, le soulève et... Ce n'est pas une brosse qui tombe à ses pieds, mais 99 brosses. Jeanne, quand elle voit ces 99 belles brosses en chien-dent, se dit qu'elle ferait bien d'aller les vendre au marché. Et voilà que le lendemain matin... Elle a mis toutes ses brosses dans un panier, le panier dans la charrette derrière le cheval et hop, au village pour vendre ses brosses. Toutes les ménagères du canton se sont précipitées sur ses brosses. En une demi-heure, tout avait été vendu. Et Jeanne regardait, avec plaisir, au creux de sa main, un petit tas de pièces. Qu'elle échange très vite, contre une belle pièce en or. Elle rentre toute fière chez elle, appelle son mari et lui montre cette belle pièce en or. « Regarde Arthur, regarde, regarde, j'ai changé les sous contre une belle pièce en or. »« En or ? T'es sûr que c'est de l'or ? » ?»« Bah, bien sûr que c'est de l'or, montre-moi ça. »« Non, ça je te montre pas ma pièce, tu vas la garder. »« Montre-moi la pièce que je vérifie si c'est de l'or. »« Non, je te laisse pas ma pièce, c'est moi qui l'ai gagnée. » Et voilà le couple qui, une fois de plus, se dispute, voulant s'arracher la pièce en or. La pièce finit par voler en l'air, à faire un tourbillon et à... plic, tomber dans le tonneau. Jeanne prend le tonneau, renverse le tonneau et là... 99 pièces en or qui tombent à ses pieds.
Jeanne et Arthur se regardent. Et là, ils commencent à réfléchir au potentiel de ce tonneau magique. Ils se disent que si chacune des pièces était déposée au fond du tonneau et qu'à chaque fois on renversait le tonneau, il y aurait 99 pièces. 99 pièces multipliées par 99. Ils ne cherchent pas à faire le calcul. Ils commencent à faire tomber la première pièce dans le tonneau. Arthur prend le tonneau, le renverse, un beau tas de 99 pièces en or à côté du premier. Et encore une pièce, et il soulève le tonneau, renverse le tonneau, le tas de pièces, et une pièce, le tonneau, un tas, une pièce, le tonneau, un tas. Au bout d'un moment, il a les bras bien fatigués, c'est Jeanne qui prend le relais. Et une pièce, le tonneau renversé, un tas, une pièce, le tonneau renversé, un tas. Et la salle où ils sont commence à être envahie de petits tas de pièces d'or reluisant. Mais voilà que Jeanne, elle aussi, commence à avoir les bras douloureux. Alors, elle se retourne devant son beau-père. Le grand-père a travaillé toute sa vie au champ. Maintenant, ce sont ses enfants qui exploitent sa ferme et lui a décidé de prendre son temps. Il est assis devant la cheminée, les charentaises devant le feu, un gros chat sur ses genoux et la pipe au bec. Et il se repose des années de travail. Mais quand il voit le regard noir de sa belle-fille, il se dit qu'il faut mieux filer doux et obéir. Il pousse le chat, se relève doucement et avance légèrement courbé. Et oui, le travail au champ est dur pour le dos des travailleurs. Il arrive d'un pas traînant devant le tonneau. Il va prendre une pièce, la fait tomber au fond du tonneau. Il se baisse pour attraper le tonneau. Il essaye d'attraper le tonneau, essaye de le soulever. Non. Tente avec, en changeant de bras, Non, décidément, il ne va pas y arriver. Alors, il va le faire autrement. Il se penche au-dessus du tonneau et va récupérer les pièces au fond du tonneau. Il se penche. Il se penche un peu trop et hop ! Jeanne et Arthur se précipitent, tous les deux attrapent le tonneau et, dans un dernier effort, soulèvent le renverse et 99 grands-pères déboulent du tonneau, tous pareils, la pipe au bec. Et là, croyez-moi, Arthur a une bonne raison de râler.
L'émission de « On ne va pas en faire toute une histoire » se termine là. On se retrouve en juin. À bientôt. On ne va pas en faire toute une histoire.
On va pas en faire toute une histoire. On va pas en faire toute une histoire. Oh, ben c'est sûr, on va pas en faire toute une histoire.
Une émission proposée par L'Arbre à Contes.